Développement durable. Un magazine sur l'environnement et le développement durable. Une émission coproduite par Fréquence Sillée 97.9 et Radio Alpes-Mancelle 106.3 en partenariat avec le Pays de la Haute-Sarthe.
Aujourd'hui, dans Hautement Durable, la diversité des espèces animales. Selon l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, la richesse naturelle d'un milieu et son évolution sont évaluées par le nombre d'espèces différentes peuplant un milieu et aussi le nombre d'individus de chaque espèce. C'est un élément important de la biodiversité qui caractérise le développement durable. Alors, un milieu peut être occupé par des espèces végétales, animales et des micro-organismes. Tous jouent un rôle dans la biodiversité. Nicolas Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du musée vert au Mans, conservateur de ce musée consacré aux espèces animales qui peuplent et qui ont peuplé le département de la Sarthe. D'abord, première question, ce département de la Sarthe est-il riche en termes de diversité animale ?
La Sarthe, effectivement, est relativement riche. Bon, on retrouve globalement la faune et la flore de l'ouest de la France. Mais en Sarthe, on a la chance d'avoir des milieux assez variés. On pense aux grandes vallées de rivières comme la Sarthe, l'Uine ou le Loir. Les grands massifs forestiers, qui sont quand même une des richesses du département, comme Bercé, Perseille ou la forêt de Sillé. Également, notamment dans le nord-ouest de la Sarthe, encore un certain nombre de régions d'élevage, donc des régions relativement riches également du point de vue de la biodiversité. Donc tout cela fait qu'effectivement on a une certaine variété qui a été relativement bien conservée en Sarthe.
Alors on parle là, quand on parle de diversité animale, on parle évidemment de la faune sauvage plutôt que des animaux d'élevage.
Alors on pourrait parler des deux. Hein. C'est vrai que naturellement, je dirais, on pense aux sauvages. L'immense majorité de la biodiversité sauvage, ce sont les invertébrés. Ce que l'on connaît mieux, c'est-à-dire les vertébrés, les oiseaux, les mammifères, n'en forment qu'une toute petite partie. Mais il est tout à fait vrai que la faune domestique, notamment les races ancestrales, enfin les races rustiques qui ont été développées pendant les derniers siècles, hein, dans l'ouest de la France, font aussi partie de la biodiversité. Et certaines races, enfin de nombreuses races d'ailleurs, sont en danger également d'extinction du côté des races domestiques.
Vous êtes surtout un spécialiste des mammifères, donc on va évoquer les mammifères et dire un peu justement les animaux, les plus gros animaux qu'on trouve en Sarthe, et notamment en Haute-Sarthe, puisque cette émission est consacrée au territoire de la Haute-Sarthe.
Là, de ce côté-là, on est principalement sur les grands ongulés, hein, on pense aux sangliers, on pense aux cerfs également, voilà, hein, c'est les plus grandes espèces qui peuvent être rencontrées dans le département, notamment dans cette région. Alors là, pour le coup, typiquement, c'est des espèces qui sont relativement communes, qui sont même beaucoup plus communes aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, hein, ce qu'on ne sait pas forcément. Donc elles, du point de vue de la biodiversité, elles n'ont pas vraiment de problème. Ce sont des grands herbivores, hein, qui sont un petit peu en bout de chaîne alimentaire. Donc ils prennent une place très importante dans les écosystèmes, une place physique parce que ce sont de gros animaux. Mais en termes de biodiversité, ils n'ont pas forcément une importance, je dirais, cruciale par rapport à d'autres animaux plus discrets, mais qui vont être plus rares ou qui vont avoir une action particulière sur les environnements.
Alors on va en parler justement de cette interaction, hein, puisque c'est toute une chaîne en fait, hein, d'écosystèmes, de chaînes alimentaires que vous avez évoquées. Mais avant cela, on peut parler des espèces qui ont disparu, qui existaient notamment dans les forêts. Hein. C'est le loup que vous mettez d'ailleurs en scène dans votre musée.
Oui, tout à fait. Je vous parlais du sanglier ou du cerf qui sont au bout de chaîne alimentaire, mais chez les végétariens, chez les mangeurs de plantes, hein, évidemment. Ceux qui sont réellement au bout de chaîne alimentaire, ce sont les prédateurs, les grands prédateurs qui ne sont plus présents dans l'ouest de la France ni en Sarthe. Le loup, hein, qui évidemment a été historiquement le grand prédateur partout présent en France, qui a disparu en Sarthe à la fin du 19e siècle. Et la région de la Sarthe où il a survécu le plus longtemps, c'est justement bien la Haute-Sarthe, hein, le nord-ouest du département, notamment les Alpes Mancelles, la forêt de Persaigne, le massif de Sillé également.
La Charnie aussi peut-être.
Hein. Également, oui, tout à fait. Tout à fait. Hein. Il faut savoir que le loup, à l'époque de la Révolution française, était présent dans toute la France. En Sarthe, il est également présent partout, jusque autour du Mans. Hein. Par exemple, il était chassé sous le Premier Empire, sur les Landes de Pontlieu, c'est-à-dire le site actuel du Musée Vert, qui aujourd'hui est totalement urbanisé. Hein. Et puis progressivement, l'espèce va se raréfier. Elle disparaît d'abord dans l'est, dans le sud du département. Et puis, elle résiste plus longtemps dans le nord-ouest. La région est plus sauvage. Et puis surtout, il y a de grandes forêts qui sont très utilisées pour la chasse. Et c'est dans ces milieux où finalement le loup va être le mieux préservé, puisque notamment la chasse au loup est une chasse extrêmement prestigieuse au XIXe siècle. Donc les grands propriétaires terriens vont essayer de sauvegarder le loup le plus longtemps possible. Alors que dans les zones de grande culture, le loup était vraiment alors d'abord craint, parce qu'il y avait la rage à l'époque, et les loups enragés pouvaient attaquer l'homme et voilà, causer vraiment des dégâts, et puis également évidemment aux troupeaux. Alors le loup finalement, je le redis, ce n'est pas la chasse hein, qui a eu raison de lui, c'est beaucoup plus l'empoisonnement, notamment le développement de la strychnine à partir du milieu du 19e siècle. Et c'est de cette façon-là qu'il a disparu dans la quasi-totalité du département à la fin du 19e siècle. Hein. Le dernier loup tué officiellement en Sarthe, on le sait assez précisément puisqu'il y avait des primes qui étaient versées à l'abattage, il a été tué sur la commune de Nogent-le-Bernard en 1893. Alors, un peu plus tard, on pense qu'il y avait peut-être encore des loups, en tout cas, il y avait des hurlements, des cris qui étaient entendus autour des forêts de Sillé-le-Guillaume ou de Persaigne, peut-être jusque vers 1900-1905. Hein. En fait, jusqu'à l'extinction, sans doute, du grand réservoir que constituait la Bretagne. Les populations bretonnes disparaissent un peu après la Première Guerre mondiale, on pense, et le loup disparaît définitivement de France vers 1930-1940.
Est-ce qu'on peut dire que, alors, vous parlez du loup comme un super prédateur, quel impact justement sur les autres espèces a eu sa disparition?
C'est assez complexe, en même temps c'est intéressant. Les grands prédateurs, ils se nourrissent de proies assez diverses. Le loup, là aussi, ils se nourrissent, on a un petit peu l'imaginaire du loup se nourrissant de grands animaux. Non, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un loup peut très bien se nourrir de mulots, de campagnols, de lapins, de lièvres, même s'il va avoir également besoin de proies de taille plus importante, de chevreuils par exemple, et éventuellement, mais alors là il fallait plusieurs loups, des meutes assez importantes, de cerfs, de biches, voire de sangliers, mais alors le sanglier était déjà un animal relativement dangereux à chasser pour le loup.
Hautement durable, une émission coproduite par Fréquence Sillé 97.9 et Radio Alpes-Mancelle 106.3 en partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Vous parliez de la chasse. Est-ce que la chasse a permis de conserver des espèces? Ou est-ce qu'elle, justement, au contraire, en tuant les animaux, on fait disparaître des espèces?
Alors, ça dépend des périodes, mais au 19e siècle et pendant une bonne partie du 20e siècle, la chasse, je dirais qu'il y avait très peu de règles la régissant, et quasiment toutes les espèces pouvaient être tuées. Donc, notamment, il y a beaucoup d'espèces aujourd'hui protégées, mais à l'époque, qui n'étaient pas, comme des grands rapaces, hein, différentes espèces d'aigles, par exemple, qui ont disparu, là aussi, de la France de plaine, du fait de la chasse. Hein. Par contre, à contrario, la chasse a permis de conserver des milieux, notamment entre autres des grandes forêts ou des zones marécageuses, des zones qui ne produisaient pas beaucoup de richesses du point de vue agricole, mais qui étaient exploitées pour la chasse. Et c'est la chasse qui a permis en grande partie que ces milieux soient préservés. Donc une préservation des milieux, pas forcément des espèces. Mmh. Aujourd'hui, la situation a un petit peu changé. La chasse est relativement limitée. Il y a encore certains problèmes sur des espèces particulières, mais dans la plupart des cas, les espèces un peu fragiles sont protégées et il y a moins d'impact du du fait de la chasse.
Et qu'est-ce qui appauvrit cette richesse, cette diversité animale? C'est l'urbanisation, c'est l'agriculture, c'est la pollution des usines, des entreprises, enfin c'est quoi?
Oui, vous avez cité les problèmes principaux. C'est vrai que dans les zones périurbaines, on a souvent un petit peu le mitage du paysage par l'urbanisation. Mais bon, globalement, les modifications agricoles ont énormément eu d'impact, hein, je dirais, sur la biodiversité. D'une part, par le fait qu'il y a moins de variétés, on reparle là de la biodiversité cultivée, hein, c'est les espèces domestiques animales, mais également végétales. Il y a moins de variétés cultivées, donc il y a moins d'espèces sauvages qui vivent autour de cette biodiversité, hein, pour être plus simple. Enfin voilà, il y a beaucoup de monocultures de blé, de maïs qui se sont développées. Donc ça, c'est évidemment très négatif par rapport à la biodiversité. Et puis là aussi, il y a eu quand même toute une période où l'emploi de pesticides, d'insecticides divers et variés ont fait que là aussi, on avait une biodiversité vraiment, vraiment très affectée. Les choses sont peut-être en train de changer aujourd'hui, mais elles changent lentement.
Alors finalement, qu'est-ce que la diversité animale ou la biodiversité apporte aux humains? On pourrait en effet se passer de bêtes fort désagréables qui nous pourrissent la vie, ces pigeons qui salissent nos toits et nos rues, ces fouines qui dégradent nos greniers, ces serpents qui nous font nous mettre sur nos gardes quand on se promène dans une prairie humide. Voilà, qu'est-ce qui fait que ben, finalement, nous, les animaux, ils nous embêtent finalement, non?
Alors là, vous avez cité, enfin en tout cas certaines espèces que vous avez citées, comme le pigeon, ça fait partie des espèces qui sont très adaptables. Et finalement, lorsque la biodiversité s'étiole, la biodiversité s'abaisse, on a quelques espèces qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont devenir très dominantes. On peut citer les étourneaux aussi, les moineaux, pourquoi pas, encore qu'ils sont aussi un petit peu en raréfaction aujourd'hui. Mais voilà, on a quelques espèces qui vont devenir vraiment très dominantes, au dépend d'un petit peu toutes les autres. Hein, l'objectif de la biodiversité, l'intérêt de la biodiversité, c'est comme son nom l'indique, avoir une très grande variété d'espèces présentes. Et cette variété, ça permet d'avoir des écosystèmes, enfin des milieux beaucoup plus stables, qui vont être moins sensibles à un ravageur, à une espèce nouvelle. Typiquement, par exemple, lorsque l'on s'occupe de son jardin, si on a une grande pelouse très propre, un jardin qui ressemble un petit peu à un terrain de golf, avec peu d'espèces plantées, et puis où on essaie de contrôler au maximum la nature, c'est dans ce type de jardin-là qu'on va avoir le plus de problèmes, justement, dus à des pucerons, dus à des espèces qui vont se multiplier, qu'on ne va pas arriver justement à maîtriser. On va avoir beaucoup moins de problèmes dans un jardin où la nature va être cultivée, mais moins contrainte. On va avoir beaucoup plus de variétés de plantes, donc plus de variétés d'insectes. Alors il y a quelques insectes effectivement qui sont pas très agréables, des moustiques, des moucherons, des choses comme ça, mais il y a une très grande majorité d'insectes qui sont beaucoup plus positifs, qui apportent vraiment au milieu, notamment des insectes qui vont être prédateurs d'autres espèces, qu'il est important de conserver, et donc on va avoir finalement un milieu de meilleure qualité également pour l'homme.
On pourrait parler aussi des chauves-souris, hein, qui est un mammifère, je crois, la chauve-souris, hein, qui est une espèce protégée que moi personnellement j'ai chez moi sous un hangar et que voilà je laisse se développer puisque ils sont un peu gênants quand la nuit tombe l'été ils sortent et ils nous passent au-dessus de la tête. Enfin ils sont pas méchants. La chauve-souris, on peut en parler aussi un peu.
Alors la chauve-souris, donc les chauves-souris, c'est une famille assez vaste, hein. Il y a plusieurs espèces qui sont présentes dans la Sarthe. Alors c'est typiquement le type d'animaux qui ont eu une réputation très négative, hein, du fait qu'ils sont nocturnes, du fait qu'ils ont un comportement qui n'est pas habituel, on va dire, pour l'homme. Et donc elles ont été pourchassées pour cela. Bon, ça fait maintenant une période assez longue qu'elles sont protégées. Je pense que maintenant le public commence à savoir que ce sont des animaux qui sont extrêmement utiles. Hein. Une chauve-souris ne se nourrit que d'insectes. Uniquement d'insectes nocturnes, de moucherons, de moustiques, de papillons. Enfin, ça représente pour chaque chauve-souris présente, des centaines d'insectes mangés chaque semaine. Donc c'est vraiment un impact important. Et alors malheureusement, les chauves-souris sont, oui, pour la plupart des espèces en régression, très très majoritairement à cause de l'emploi de pesticides qui réduisent les populations d'insectes et puis qui empoisonnent en elles-mêmes les chauves-souris parfois.
Alors on aurait pu parler aussi des abeilles mais alors une question justement sur les actions de l'homme qui permettent justement de conserver cette diversité animale, ou en tout cas de faire que les populations puissent prospérer, vivre en harmonie finalement avec leur environnement.
Alors, l'homme, il peut agir à plusieurs niveaux. Je dirais, globalement, on entend parler dans les médias où il y a des associations qui s'occupent de la nature et qui créent des réserves, qui essaient vraiment de protéger certaines zones. Hein. Mais bon, ça, c'est un petit peu difficile d'accès, je dirais, au grand public. Pour le grand public, très simplement, on peut commencer avec un simple jardin, même si on n'est pas agriculteur, même si on ne gère pas des grandes surfaces. Au niveau de son propre jardin, c'est essayer de commencer à, d'abord, simplement à l'observer, à s'intéresser vraiment à son jardin et à ses habitants, et on va voir qu'il y a une faune qui est vraiment passionnante à étudier. Et si on évite de la détruire, en employant des anti-limaces, en employant des insecticides divers et variés, au départ ça va être peut-être un peu plus compliqué de le gérer, ce jardin, mais en ayant un peu l'habitude, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis au final, lorsqu'on le connaît bien, lorsqu'on apprend justement à bien connaître réellement la nature, c'est pas plus compliqué de le gérer, et on va avoir une variété d'espèces vraiment vraiment intéressante. Et si on arrive à maintenir des petits prédateurs des crapauds par exemple, c'est le sans doute l'auxiliaire du jardinier le plus important, qui va détruire les escargots, les limaces. Enfin, c'est vraiment un animal très important à avoir dans son jardin lorsqu'on a un potager, qu'on va avoir de belles récoltes de légumes. Bon, bah évidemment, si on emploie par exemple de l'antilimace, le crapaud il va s'empoisonner en se nourrissant des limaces qui ont mangé cet insecticide, enfin ce pesticide. Voilà, ça détruit le crapaud. Du coup, on va voir quelques mois après encore plus de limaces et d'escargots. On va devoir employer encore plus de produits. Enfin voilà, c'est une chaîne sans fin qu'il faut casser un moment. À son simple niveau, en gérant correctement son jardin, on peut faire beaucoup pour la biodiversité. Par exemple, le problème des papillons. Les papillons sont de plus en plus rares partout en France, notamment dans les zones de culture. Finalement, ils se raréfient encore plus à la campagne qu'en ville. Parce qu'en ville, globalement, il commence à y avoir moins d'utilisation de pesticides. Et donc, lorsqu'on habite en ville, dans un village, là aussi, avoir une certaine variété de fleurs dans son jardin, pour que les papillons, ils sont sortis là depuis 15 jours, 3 semaines, et ils puissent trouver de la nourriture sur les fleurs dès le début de leur vie et jusqu'à la fin de la belle saison. Et sans produits pesticides, eh bien là aussi, on contribue à la biodiversité locale, et puis pour des animaux qui sont très sympathiques.
Merci Nicolas Morel d'avoir participé à cette émission de Hautement Durable consacrée cette semaine à la diversité animale.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'était Hautement Durable, un magazine coproduit par Fréquence Oscillée, Radio Alpes-Mancelles et Le Pays de la Haute-Sarthe. À l'interview, Emmanuel Bouger, à la réalisation, Nathalie Lotin.